17-18h, c'est Vertigo.
Mon nom est Ruth Walters.
Et le mien, Jane Marple. Je suis ravie de vous connaître.
Robert, servez du thé à Miss Marple. Il s'est passé un drame, figurez-vous. Bobby a trouvé un cadavre.
Oh, c'est affreux.
Au milieu de la falaise.
Ah, je vois que ta vieille amie fouineuse n'est pas encore debout.
Non.
Elle a sans doute prévu une énième mystérieuse discussion avec son amie de la police ce matin.
Cessez de me tourmenter. Vous allez me dire tout de suite qui est l'assassin. Est-ce que vous pensez?
N'en est pas question, cher Dolly.
Vous savez maintenant qui a tué Ruby Keene?
Oh oui.
Silence, tout le monde. Jane, il faut nous le dire.
J'écoute.
L'empoisonnement? Mais c'est ridicule. Je veux dire, pourquoi voudrait-on empoisonner maman?
Mais alors, qui l'a tué?
Le meurtrier ne peut être que vous, Monsieur Serocold.
Mais c'est ridicule.
Miss Marple, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout.
Quelqu'un voudrait-il une tasse de thé?
C'est une vieille fille, éternellement vieille, mais à l'œil, l'esprit et la curiosité toujours vifs, au point d'aider mieux que personne Scotland Yard à résoudre des crimes, parfois sans bouger de son fauteuil ou presque. Cette détective amateur, c'est Miss Marple, héroïne de 12 romans, 20 nouvelles d'Agatha Christie, bien sûr, maintes fois adaptées au cinéma, à la télévision, mais aussi en bande dessinée. Bonsoir Dominique Ziegler.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez vu, vous avez reconnu, j'en suis sûre, maintenant que vous êtes un expert en Miss Marple, toutes ces adaptations qu'on vient d'écouter?
Non, écoutez, moi je me suis mis justement un point d'honneur à pas regarder trop d'adaptations télévisées, à faire ma propre sauce pour la bande dessinée, parce que l'éditeur Pierre Paquet, pour qui je travaille, a racheté les droits d'adaptation pour le monde entier de tous les romans d'Agatha Christie. Et il m'a confié la tâche de faire des scénarios adaptés des romans de Miss Marple. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais plutôt essayer de restituer la sève du roman, d'en faire des adaptations dynamiques pour la bande dessinée, et de pas trop me laisser influencer par les diverses adaptations télévisées ou autres.
Donc de lui donner le visage que vous vouliez lui donner, parce qu'elle a eu plein de visages.
Voilà, en accord évidemment avec le très talentueux dessinateur Olivier Daugé, qui est un adepte de la ligne claire, qui est vraiment un héritier de Edgar P. Jacobs. Il y a un parfum très Blake et Mortimer dans ses BD. Lui, il s'est inspiré de l'actrice Madeleine Renaud. On voulait que cette Miss Marple soit justement pas une vieille fille, qu'il y ait un petit regard pétillant, très jeune en elle. Elle a un petit côté malin. On la réduit souvent à justement une potiche, et c'est quelqu'un justement qui en a sous la semelle. Et en ce sens-là, elle est un peu proto-féministe, si j'ose dire, même si c'est pas le MLF en action. On a quand même une femme vieille, qui n'a pas les attraits physiques de Wonder Woman et compagnie, qui résout des crimes, qui dame le pion à des criminels endurcis. Et en ce sens, elle est très intéressante aussi par l'humanité qu'elle dégage, par l'intelligence, voilà, par son côté malin. Et on a vraiment voulu restituer ça, ce côté jeune, malgré l'âge.
Dominique Ziegler, vous êtes auteur, metteur en scène, auteur de pièces, de romans, de chroniques, et donc aussi, on le découvre, de scénarios de bandes dessinées. Ça n'est pas votre première adaptation. Et 3 ans auparavant, il y avait un cadavre dans la bibliothèque où vous retrouviez le monde de la reine du crime, comme on appelle Agatha Christie, et plus précisément celui de Miss Marple pour cette aventure. Est-ce que vous êtes préposé à Miss Marple aux éditions Paquet, donc qui publie ses bandes dessinées?
Alors oui, le mandat, c'est de faire essentiellement du Miss Marple, mais comme le premier ouvrage a très bien marché et puis celui-ci est sur une bonne voie, ils m'ont aussi ouvert la possibilité de faire du Hercule Poirot. Et là, j'en ai lu un que je pense adapter, La mort dans les nuages. Et c'est vraiment une grande joie pour moi, parce que je suis un grand fan de polar en général et d'Agatha Christie en particulier. Et c'est comme si j'étais un gamin dans un magasin de jouets. En fait, je peux me servir de n'importe quel roman, en accord évidemment avec les autres collègues qui font les autres tomes. Mais c'est génial de pouvoir comme ça puiser dans cette œuvre qui est incommensurable, qui est riche, qui est maligne, etc. Donc oui, je vais faire d'autres choses que Miss Marple. Mais on va continuer Miss Marple, on va essayer d'accélérer la cadence, d'en faire au moins un tous les 2 ans à peu près.
Racontez-nous en 2 mots cette histoire à l'hôtel Bertram.
Alors c'est un roman assez atypique d'Agatha Christie, puisque d'une manière générale, comme vous l'avez suggéré dans votre séquence sonore, ça démarre toujours par un crime, et puis il y a une enquête, c'est le fameux Who Done It hein, qui l'a fait, et puis voilà, elle enquête à partir du crime, il y a une série de suspects. Tandis que ce roman-là, il est assez particulier, je dirais même qu'il est un peu proustien, c'est-à-dire qu'il se passe les choses suivantes. Miss Marple est témoin d'un hold-up dans son petit village de Saint Mary Maid, et puis elle induit la police sur une fausse piste. Et à partir de là, ça démarre sur un échec et elle est très traumatisée et elle décide de partir au calme à Londres dans un vieil hôtel qui s'appelle l'Hôtel Bertram qui est resté figé volontairement dans le 19e siècle. C'est-à-dire que la direction de l'hôtel, face à ce monde qui change, parce que le roman a été écrit au milieu des années 60...
1965, il est
voilà,
sorti. Hein.
Face à ce monde qui change, il décide de faire en sorte que l'Hôtel Bertram soit un havre de paix à tel point qu'ils engagent des figurants, notamment une vieille amie de Miss Marple, Selima, pour donner un cachet old-fashioned à l'hôtel. Et elle va se réfugier dans cet hôtel, pensant trouver la paix et le bonheur. Et évidemment, ça va être l'inverse, parce qu'on est chez Agatha Christie.
Mmh. À croire qu'elle porte poisse, hein, parce que partout où elle va, il y a des crimes.
Exactement.
Effectivement, il va y avoir quelques morts et quelques drôles d'histoires familiales hein, aussi.
Voilà, c'est en ce sens que je disais proustien, dans la mesure où il y a toute une galerie de personnages, il y a des portraits, le roman est assez lent, moi je l'ai adapté justement de manière très dynamique, de manière à vraiment restituer la sève et qu'on s'embête pas, mais le roman, quand vous le lisez, vous comprenez pas trop où elle veut en venir Agatha Christie, parce qu'il y a toute cette galerie de personnages, il y a aussi les souvenirs de Miss Marple qui descendait à l'hôtel Bertram, elle-même très jeune, donc elle est elle-même une espèce de reliquat de cette vieille Angleterre, il y a une espèce de jeu de miroir qui est très intéressant, et voilà, et dans toute cette galerie de personnages qui sont très théâtraux aussi, c'est dans ce sens-là que ça m'a aussi beaucoup intéressé, elle va tout d'un coup sentir qu'il y a des choses pas très nettes. Voilà, il ne faut pas que je spoil trop l'affaire, mais voilà, c'est un peu ça, ce roman atypique, ça part pas d'un meurtre, ça part d'un contexte global qui ensanglante l'Angleterre, qui est sur cette série de hold-up, et puis à partir de ce refuge, elle va mener l'enquête un peu malgré elle. Elle va être confrontée à des choses, et puis tout d'un coup, ça va lui mettre la puce à l'oreille, et ainsi de suite.
Mmh. C'est un hôtel fictif, mais inspiré d'un vrai à Londres.
Voilà, de l'hôtel Brown, qui est un hôtel de luxe qui existe toujours. Et justement, pour créer l'hôtel en bande dessinée, on s'est inspiré de différents hôtels. On a fait des recherches iconographiques. Et puis, une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, moi, j'ai situé le roman en 67. J'ai décalé de 2 ans. Parce qu'en fait, l'idée de cette série Miss Marple, comme les romans ont été écrits entre le 1930 et 1975, si chaque fois on fait à la date à laquelle il a été écrit, on va avoir un truc très, très hétéroclite. Donc, je me suis dit qu'on allait fixer la série au milieu des années 60. Alors, le cadavre dans la bibliothèque, il est en 1966, et celui-là, il est en 67. Mmh. Et en 67, qui c'est qui arrive à Londres? Jimi Hendrix.
Mais oui, rencontre voilà. Jimi Hendrix voilà. Et quelques Beatles aussi.
Voilà, je me suis permis de mettre les Beatles et Hendrix dans le décor, parce que c'est historiquement vrai, ils se sont rencontrés, et Hendrix est descendu dans un hôtel qui n'est pas le Brown Hotel, mais qui était dans un hôtel similaire. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être marrant si on le fait passer là dans l'hôtel, et puis on crée ce décalage qui existe toujours chez Miss Marple et chez Agatha Christie en général, à savoir les conflits de génération. On a cette jeune génération montante et puis on a cette vieille Angleterre qui regarde ça un peu désabusée, tétanisée, sans comprendre les choses qui bougent.
Mmh. Donc vous avez tous les droits d'adaptation
Voilà, de tous les romans d'Agatha Christie.
Oui, mais je veux dire même au sens concret du terme, vous pouvez rajouter les Beatles, Jimi Hendrix.
Alors là, effectivement, vous touchez un point légèrement épineux sur lequel je ne voulais pas trop revenir.
Attention,
on a quand même la Agatha Christie Foundation qui nous tape un peu sur les doigts si on va trop loin. Ils l'ont fait pour moi. Je me suis permis un peu dans mon enthousiasme d'imaginer un dialogue plus fouillé entre Miss Marple et Jimi Hendrix sur les vertus du LSD. Et puis là, ils m'ont dit que c'était quand même un peu too much. Donc ça, ils m'ont retoqué là-dessus. Et finalement, ils n'avaient pas tort parce que les gens, ils veulent du Agatha Christie, ils veulent pas du délirium. Mm-hmm. Mais l'idée du LSD, c'était de chercher la vérité sous les apparences, qui était la quête de cette jeune génération Flower Power. Et puis c'est aussi la quête de Miss Marple. Donc je me suis dit qu'il y avait un pont à faire entre les deux, mais la Agatha Christie Foundation m'a très gentiment dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà, pour le reste, ils sont très contents et ils nous soutiennent dans ces adaptations.
Vous venez de dire, Dominique Ziegler, que les gens veulent de l'Agatha Christie. Qui sont ces gens, justement, pour lesquels vous écrivez cette bande dessinée?
Alors, c'est compliqué de faire le prototype du lecteur type ou de la lectrice type, dans la mesure où, comme elle a vendu 2 milliards de livres à travers le monde, on peut dire que c'est un peu tout le monde. La BD, c'est vraiment une BD mainstream. C'est une BD qui s'adresse à tout le monde dès l'âge de 10 ans. Moi, j'ai fait le test sur mon fils qui a 10 ans. Il a beaucoup aimé, il a accroché, ce qui m'a rassuré au niveau du rythme. Et puis, il y a cette référence qu'ont la plupart des gens envers cet univers post-victorien, cet univers qui a ses codes propres, qui est l'univers d'Agatha Christie, salon de thé, apparence tronquée, toutes ces choses-là. Donc on va dire que les lecteurs et lectrices sont vraiment de tout type de classe sociale et surtout de tout âge.
Qui est Miss Marple pour vous, plus personnellement, Dominique Ziegler?
Alors c'est toujours paradoxal, quand on s'empare d'un personnage qui existe déjà, j'ai fait l'expérience quand j'ai fait des pièces, des espèces de biopics sur Lénine ou Jaurès ou César, le personnage est réel, ou bien il existe déjà dans l'imagination de quelqu'un d'autre, comme c'est le cas pour Miss Marple, et puis on se l'accapare. Alors, tout l'enjeu consiste à rester fidèle à l'idée de l'auteur, qui est Agatha Christie en l'occurrence, et de ne pas la trahir. Mais comme je vous ai dit précédemment, pour moi, c'est une vieille femme maligne. C'est comme une jeune femme dans le corps d'une vieille, si vous voulez. Quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter. Alors, Agatha Christie nous a donné beaucoup d'indices sur la psychologie de Miss Marple, notamment cette phrase qu'elle dit de manière récurrente, « La nature humaine est la même partout ». Elle a à la fois un côté sympathique et dynamique, et à la fois un côté assez sombre. Je dirais même calviniste. Et elle est aussi très impitoyable, malgré les apparences. C'est-à-dire que quand elle attrape un coupable, elle ne va pas le laisser filer. Et ça va être le cas, sans spoiler l'affaire, à la fin de l'hôtel Bertram. Elle va être sans pitié avec quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Et ça note quelque chose de chez Agatha Christie, qui est un côté chrétien, rigoriste, si vous voulez. Elle est très empreinte de morale chrétienne, elle était de l'église anglicane, donc ça nous rappelle certaines traces de calvinisme. C'est-à-dire que le crime ne paye pas. Il n'y a aucune excuse. Voilà. Donc, pour moi, je voulais faire une Miss Marple un tout petit peu plus sympa. Et là aussi, la Agatha Christie Foundation m'a retoqué. Je vous dis toutes les coulisses de l'affaire. À la fin, je voulais faire en sorte qu'elle laisse partir la personne coupable. Et puis, la Agatha Christie Foundation m'a dit non, dans le livre, elle la confond et cette personne va en prison. Simplement, moi qui me suis un peu renseigné sur l'histoire, à cette époque, dans tous les romans d'Agatha Christie, la peine de mort existe toujours en Angleterre. Ce qui fait que quand Miss Marple attrape un coupable, le coupable, il est zigouillé, elle le condamne à mort. Voilà. Donc, cette Miss Marple, pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent, de très malin, de très observateur, et qui est finalement assez complexe, qui a à la fois ce côté jovial et jeune malgré les apparences, et puis aussi ce côté dur que lui a insufflé Agatha Christie. Voilà. Elle est encore complexe, finalement, je la découvre d'un album à l'autre.
Mm-hmm. Et Agatha Christie, c'est qui pour vous? Est-ce que vous étiez un grand lecteur dès l'enfance?
Très grand lecteur. J'ai eu un premier choc à l'âge de 10 ans quand j'ai lu Le Meurtre de Roger Ackroyd, qui est un roman complètement hallucinant, dont on sait que la fin est une espèce de coup de théâtre totalement incroyable. Et puis après, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'Agatha Christie. J'ai toujours été un grand fan. Qui est-elle? C'est aussi un mystère, Agatha Christie, parce qu'elle est issue de cette société aristocratique, très poussiéreuse, très conservatrice. Et elle-même, elle en fait partie et elle s'en extrait en même temps. C'est-à-dire qu'elle est une des premières femmes à être aussi connue, à gagner autant, si ce n'est plus que les hommes, à s'émanciper du diktat masculin. C'est aussi une femme meurtrie. Elle a été trompée par son mari, Monsieur Christie, en qui elle avait une certaine dévotion. Et donc, elle a organisé son propre enlèvement, sa disparition ensuite. Donc, c'est quelqu'un aussi de très complexe. Elle fait à la fois partie de cette société bourgeoise, aristocratique, et en même temps, elle est extrêmement féroce et critique avec cette société dans la mesure où finalement elle nous en donne un tableau qui est très peu reluisant, c'est-à-dire que c'est que de l'hypocrisie, c'est que de la vénalité, de l'appât du gain, c'est que la violence derrière les apparences, derrière le côté feutré. En ce sens, elle est une espèce de marxiste qui s'ignore.
J'étais sûre qu'on en reviendrait là, Dominique Ziegler, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, c'est ce qu'on ressent aussi dans cet hôtel Bertram, qui est une sorte de couloir temporel, comme ça, où le temps s'est arrêté ici, mais circulent des personnes de l'ancienne Angleterre et de la nouvelle.
Voilà, quand on lit beaucoup d'Agatha Christie, comme c'est mon cas, on voit qu'il y a toujours cette tension entre jeune génération et ancienne génération. Et je soupçonne Agatha Christie d'avoir été elle-même tiraillée par cette aspiration envers la jeunesse, d'avoir été une rebelle qui s'ignorait au sein de son milieu. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de mettre en avant, parce qu'à mon avis, ça peut parler au lectorat actuel. Parce que vous savez, quand il y a des romans de 250 pages, il faut évidemment puiser, prendre ce qui nous intéresse. Donc vraiment, sans trahir l'auteur, eh bien, j'essaie de restituer ce qui me semble le plus intéressant et le plus moderne. C'est pour ça que dans cette adaptation, j'ai aussi mis Miss Marple qui va au théâtre et qui regarde Le Roi Lear. Mmh. Le Roi Lear, c'est la pièce de Shakespeare symptomatique du conflit de génération, puisque c'est trois filles du Roi Lear qui expulsent le vieux roi qui les avait fait reines. Voilà, donc ça, c'est pas dans le roman. Il est dit qu'elle va au théâtre, mais moi, j'ai rajouté qu'elle allait voir Le Roi Lear. Mais c'est toujours un hommage. Je suis quand même très respectueux de la doxa christinienne, si vous voulez.
C'est quoi pour vous une bonne bande dessinée ?
C'est une bande dessinée où on ne s'ennuie pas. C'est aussi bête que ça. Il faut du rythme, il faut de la tension. Là, j'essaie de mettre aussi un peu d'humour, un petit côté décalé, parce que justement, Miss Marple, elle est toujours un peu comme un chien dans un jeu de qui. Donc, il y a toujours des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait, cette vieille, ici ?» Et puis, même la police la prend un peu en grippe. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'en fait, elle est beaucoup plus maligne qu'eux. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce Miss Marple. Et une bande dessinée, en général, mais... Qui suis-je pour dire ce qu'est une bonne bande dessinée ? Moi, je suis un grand fan de BD. Donc, c'est Blueberry, c'est Alix, c'est les humanoïdes associés. Il y a tellement d'univers géniaux dans la BD. On peut tout faire. Il y a autant de styles graphiques que de styles littéraires. Voilà, moi, j'adore la BD. Mais ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas. Et là, le travail avec Olivier Daugé et avec Pierre Paquet a été vraiment intéressant pour moi. Ils m'ont appris qu'une BD, ça se construit. Parce qu'une chose, c'est de les lire. Une autre chose, c'est de les faire. Ça se construit en double page. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à la fin de la page, de la deuxième page, vous ayez envie de tourner, et pof, et ainsi de suite. Donc, dans un côté feuilletoniste, vous avez évoqué tout à l'heure Gaston Leroux, dont je suis aussi un énorme fan. Il faut se souvenir de La Poupée Sanglante, qui est un bouquin génialissime. Voilà, moi j'adore Maurice Leblanc, Conan Doyle, Gaston Leroux, j'ai lu tous les Chéri Bibi, tous les Rouletabille. Donc, il y a ce côté-là aussi. Eux aussi étaient des feuilletonistes. Et dans les journaux, comme ils faisaient ça par épisode dans les journaux, bah, l'idée c'était que la personne ait envie de lire le lendemain. Voilà, alors j'essaye à ma manière de faire en sorte que quand on est arrivé à la fin de la deuxième page, on a envie de tourner et ainsi de suite et ainsi de suite.
Et pourquoi ne pas écrire votre propre personnage de bande dessinée alors ?
J'y pense. Mais j'ai beaucoup de projets de bande dessinée, de théâtre, donc j'arrive pas à tout faire. Là, on va adapter ma pièce Helvétius, qui traite du martyr de nos ancêtres les Helvètes par les légions de Jules César. On va faire 3 volumes chez Paquet. Et là aussi, de nouveau, je suis dans la même démarche d'essayer de rendre ça digeste, passionnant, intéressant. Et c'est-à-dire que l'histoire est déjà tellement foisonnante qu'on n'a qu'à se servir. Mais vous avez raison, à un moment, il faudra faire son propre personnage. J'attends d'être encore un peu plus aguerri.
D'accord, donc c'est sur avec Miss Marple que vous faites ça, vous avancez.
J'avance, elle m'aide beaucoup et surtout les collègues et Olivier Daugé qui est vraiment un grand dessinateur. Voilà, je vous encourage beaucoup à feuilleter cette BD, ne serait-ce que pour le dessin qui est un dessin vraiment très très virtuose, qui restitue très bien l'ambiance de cette vieille Angleterre justement, qui est très adaptée à Miss Marple.
Quelle est la différence pour vous entre le scénario de bande dessinée, le scénario d'un film par exemple ? Parce que à ma connaissance, vous n'avez pas encore fait de film.
Si, j'ai fait un scénario de téléfilm pour la RTS et je m'y suis frotté un peu. Mais je serais plus à même de vous parler de la différence entre un texte de théâtre et un scénario de BD. En fait, il y a beaucoup de similitudes. Ce qu'il faut déjà, c'est synthétiser les informations. C'est-à-dire que, par exemple, les dialogues ne doivent pas être trop longs. Il faut que ça avance assez vite. Et il faut, en même temps, ne pas créer de confusion, surtout dans des intrigues aussi complexes que celles de Miss Marple. Donc, il y a beaucoup de similitudes. La grande différence, et elle est de taille dans la BD, c'est qu'on fonctionne par ellipse. C'est-à-dire que d'une case à l'autre, il y a un espace-temps qu'il faut définir. Et ça, c'est la grande complexité de la BD, c'est qu'est-ce qu'on laisse comme espace-temps entre une case et l'autre. Tandis que dans la scène de théâtre, vous avez un déroulé, un après l'autre scène, etc. Donc ça, c'est le côté mystérieux de la BD, c'est ce qui se passe entre les deux cases, et c'est une construction qui n'obéit qu'à la BD. Il y a aussi le fait, et là-dessus j'ai aussi appris en faisant, grâce encore une fois à mes partenaires, le fait de ne pas mettre trop de cases dans une page. Au début, j'avais tout compressé, j'avais mis 13-14 cases, et au-delà de 7-8, c'est parfaitement illisible. Aussi, faire confiance au dessin. C'est-à-dire, quand on fait du théâtre, souvent, moi, j'écris un peu à l'économie. C'est-à-dire, je pense à 3-4 acteurs, déjà, à la scénographie, au changement, à ce qui va être possible de faire sur scène. La BD, heureusement, là, et c'est ça qui est très jouissif, on peut tout faire. L'adaptation de Helvétius, du Martyr des Helvètes, quand on faisait la pièce de théâtre, c'était César qui disait « Légion, vous êtes 10 000 et en face, il y a 10 000 Helvètes !» Et en fait, il parlait à une chaise dans la coulisse. Oui. Parce que on va pouvoir vraiment faire les Légions, dessiner les Légions, on peut tout faire. C'est ça qui est magnifique, pour autant qu'on ait un dessinateur talentueux, ce qui est le cas.
Ce qui est le cas ici, donc, c'est Olivier Daugé qui signe avec vous donc cette adaptation d'Agatha Christie de Miss Marple à l'Hôtel Bertram en bande dessinée aux éditions Paquet. Merci beaucoup d'être passé par chez nous pour en parler. Très bonne continuation.